Bonjour, on va le faire avec micro. Puis dans cette salle, n'est pas forcément nécessaire, mais au moins on est sûr que tout le monde entend bien et surtout on va capter l'intervention qui vous permettra de vous retrouver après si vous voulez écouter des extraits, enfin, puis de partager avec les personnes qui peuvent être aujourd'hui. Je vais d'abord laisser la parole à Grégoire Lefebvre, le directeur de la Banque Saine, qui va vous dire un mot d'accueil.
Très rapidement, bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous voir ici. Ravi d'avoir passé les phrases de l'étudiant pour cette conférence qui s'avère très intéressante, et d'ailleurs je ne veux pas manquer l'occasion d'insister. Ravi que vous ayez pu trouver le chemin de Colomb, pas forcément évident, mais je crois qu'on a peu de suite pour l'instant, on a quelques retardataires qui vont arriver, donc on est ravis aussi. Ça fait beaucoup de sens, d'une part parce que le TNFA, c'est une deuxième expérience ensemble, in situ, et qu'en plus c'est un premier partenariat avec Futur en Scène, donc ça fait deux bonnes occasions de vous croiser, et qui plus est sur un sujet qui me tient à cœur et qui est encore une très belle occasion de s'interroger sur la place du théâtre dans l'agora publique. Je crois que c'est un mot qu'on peut utiliser dans la présentation Futur en Scène. Ça a beaucoup de sens. L'espace qui est juste là dans lequel vous avez fait le café est justement nommé l'agora. Mais en tout cas, ici à la Banque Saine, on est particulièrement attaché à cette question justement du théâtre dans la place publique, au sein de la collectivité et du territoire. Et là, sur la question de la vie connectée et de la vie numérique, à l'heure du numérique, c'est une très bonne prolongation de cette réflexion qui, à mon avis, doit faire le quotidien de tout directeur d'institution culturelle. Voilà. J'en dis pas plus, pas une sorte, et je vous souhaite une belle conférence. Je passe la parole à Anne qui joue à domicile aujourd'hui. Donc, voilà.
Oui, merci de nous accueillir. Je joue à domicile, je suis directrice de la commission du développement ici. Donc on est ravis de pouvoir tous vous accueillir pour cette conférence numéro 8, sur les rencontres du TMN Lab. Je vais refaire un point sur le TMN Lab, où on en est, et pour ceux, alors déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont jamais venues à une rencontre du TMN Lab? Voilà, il y a quelques nouveaux. Très bien, on est ravis d'accueillir à chaque fois des nouvelles personnes. Alors le TMN Lab, c'est donc d'abord une communauté professionnelle. Alors c'est une association, hein, comme tu vois, on a décidé d'institutionnaliser un peu TNLA, ça nous permet aussi, ça nous permettra de développer des choses grâce aux réseaux et puis de gagner une reconnaissance par les lieux théâtraux. Nous avons notamment, nous avons 7 aujourd'hui partenaires, alors je n'ai pas la liste sous les yeux, donc je ne veux pas me tromper, mais on a des avancées évidemment qui est adhérent, le Volcan récemment, on est représentant ici, les aides à la Cité internationale, on a la scène nationale 61. On a le Phoenix à Valenciennes, le théâtre universitaire de Nantes, le Grand T. Est-ce que j'en oublie?
Jacques Prévert,
merci Jean-Marc. Et voilà. Donc on est très heureux qu'ils nous soutiennent dans cette initiative, une initiative récente. Le TMN Lab, les premières fois que le mot a été prononcé, c'était en octobre 2013, en tant que culture numérique, du ministère de la Culture. Première rencontre dans un café en février 2014. On est devenu une association fin 2014. Vous voyez, c'est vraiment tout jeune. Et c'est vrai qu'on vous remercie. Il y a une vraie adhésion des professionnels autour de ce projet. Et on espère qu'on va réussir à la développer ensemble, d'où l'intérêt de la suite de cette journée. C'est la première fois qu'on fait une journée complète, ce même pas de conférence, suivie d'un atelier aussi avec Pascal Desfarges en début d'après-midi, pour lequel vous êtes tous les bienvenus si vous avez prévu de rester. Et ensuite, on travaillera ensemble sur le TMN Lab, faire un bilan du projet et voir ce qu'on peut en faire encore ensemble pour l'année prochaine. Parce que le TMN Lab, c'est d'abord un projet communautaire, un projet professionnel, dans lequel vous avez tous une place à prendre. Pour nous, évidemment, on est là aussi pour faire une veille, pour vous proposer des rendez-vous comme celui-là, pour discuter des prospectives autour de qu'est-ce que sera le lieu théâtral à l'avenir, quels impacts ça peut avoir sur nos métiers, sur les organisations elles-mêmes. Mais c'est aussi un endroit de partage. Donc, du coup, vous, ce que vous faites dans vos institutions, ou le travail de veille que vous menez, c'est un espace pour le partager. Et cette place, elle est très importante à prendre, on en reparlera aussi tout à l'heure. On a déjà quelques personnes qui commencent à nous fournir de la veille, et voilà, c'est un travail collectif à l'échelle nationale. Ça aussi, c'est important de le rappeler, le TMNA, ce n'est pas un projet francilien, d'ailleurs, dans les théâtres adhérents et dans les gens qui vont aujourd'hui, on le voit, on a des structures un peu partout en France, et ça a vocation à se développer, on espère pouvoir faire des rendez-vous en région l'année prochaine, des premiers tests, et voilà, c'est vraiment un travail qui se veut à l'échelle du territoire, et en termes de veille aussi voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays, donc à nous tous on peut travailler là-dessus. Pour les prochains rendez-vous du TMN Lab, c'est important de noter qu'on a deux rendez-vous pour les personnes qui seront au Festival d'Avignon. Nous avons été invités par le Centre National du Théâtre à une rencontre le 12 présent. Il y aura probablement d'autres rendez-vous à Lyon 2. Vous aurez des informations communiquées sur notre site internet. Donc si vous êtes présent là-bas, ce sera aussi une belle occasion de travailler ensemble. Pour le CNT, ce sera l'occasion de faire aussi un bilan et de voir un peu les perspectives pour les théâtres par rapport aux règles de FTLA, mais en général à la Mondialie. Et puis, avec l'Association des scènes nationales, nous aurons un rendez-vous qui, pour les membres de l'Association des nationales, nous permettra de voir avec eux quelles sont leurs problématiques et comment on peut travailler ensemble. Voilà pour les rendez-vous. Je voulais aussi vous présenter, parce que vous ne vous identifiez peut-être pas tous, donc moi, à l'égal, je fais partie donc, de l'équipe d'animateur du DNA Lab. Dans cette salle, il y en a plusieurs, donc je vais vous les présenter. Julia Basso, voilà, qui travaille au théâtre du Bon Point. Alors, je vais faire dans l'ordre. On a Séverine Bouisset au fond, qui est au théâtre Jean-Arpe. Ghislain Koum à la scène nationale 61. Ensuite, je reprends devant Sébastien Daniel, au théâtre d'Aulnay-Jacques Prévert. Nous avons Christelle Spolchet-Roubi, du théâtre des Champs-Élysées. Et vous avez pu voir, qui va nous rejoindre par les derniers repas de la seconde arrivée, Héloïse Lecomte, au théâtre de la Cité internationale. N'est pas présente aujourd'hui Léopoldine Bédé, qui fait aussi partie de la jeunesse du projet, mais qui a tenu avec le Musée de l'Homme et ne pouvait pas venir. Voilà, elle travaille dans un musée, mais elle a un peu historique de théâtre, et donc elle est avec nous. Et puis parmi vous, il y a pas mal d'adhérents, et on vous remercie parce que c'est un vrai soutien pour nous. Cet après-midi, d'ailleurs, vraiment, ce sera votre moment pour prendre la parole sur les raisons de votre adhésion, puisque vous attendez de ce projet. Donc aujourd'hui, on a souhaité faire un sujet qui nous tient à cœur sur la question de l'évolution de la ville. C'est la question de la ville, la smart city, du territoire intelligent, comment le territoire évolue, comment les pratiques collaboratives se réinventent sur le territoire, quelle place l'institution culturelle, l'institution théâtrale peut prendre là-dedans. La question de la smart city, c'est une question dont vous avez peut-être entendu parler à plein d'endroits, c'est une question plutôt à la mode. On en entend parler beaucoup, Paris a un nom qui devrait devenir une smart city phare, un exemple mondial. Montpellier aussi, qui travaille dans ce sens, on a vraiment un mouvement en France aujourd'hui. Mais c'est vrai que la question de la culture dans la ville intelligente est assez peu abordée. On l'aborde souvent d'un point de vue économique, d'un point de vue éventuellement sociétal, notamment sur la question de la médiation numérique et de l'inclusion numérique, car le numérique a créé des fractures aussi dans les territoires. On en parle à plein d'égards, mais c'est vrai que la place des institutions culturelles, c'est une question peu abordée, donc on est très heureux de pouvoir poser des bases aujourd'hui avec Pascal Desfarge. Pascal qui suit le projet du TMLA là depuis, qui est vraiment sur la question du territoire.
Je suis adhérent.
Il est adhérent depuis aujourd'hui, au TMLA depuis Pascal. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs reprises pour ce rendez-vous, et c'est vrai qu'on est. L'honneur de venir aujourd'hui, c'est important pour nous et on est ravis de t'avoir. Je vais donc te laisser la parole pour cette intervention.
Et est-ce que ça marche pour nous?
Oui,
vous m'entendez? Moi je m'appelle Pascal Desfarge, je vais vous donner une petite présentation. Déjà vous dire que je suis là pour mon expertise, on va dire, mais je suis là surtout parce que je viens du théâtre en fait. Et moi j'ai travaillé comme intermittent de spectacle pendant 12 ans. Voilà, on est grande maison de. Je ne sais pas, le théâtre Paris Village, j'étais régisseur tableau et accessoiriste. À Villy-Lausanne, j'étais dramaturge. Au Festival Turbulence, à Maillon-Maillon, j'étais jeune metteur en scène. Voilà, je viens du théâtre. Et j'ai un papa de théâtre, même un papa d'Inco, on va dire, spirituel, qui est Gérard de Sarthe, avec qui j'ai travaillé pendant 7 ans comme dramaturge. Voilà, je ne suis pas étranger à ce milieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que je tiens beaucoup à l'atelier de l'après-midi, en fait. En fait, cette présentation, c'est pour préparer l'atelier de cet après-midi. Voilà. Donc, ce que vous allez entendre, des questions qu'on se pose, etc., mais il y a cette dimension-là. Je dirige une petite agence qui s'appelle Rétis. On est deux. Oriane, je ne sais pas où elle est. Elle là-haut. Voilà. Et on est spécialisé dans les territoires numériques, les territoires collaboratifs liés aux technologies émergentes. Je fais une présentation rapide. On fait de la formation d'abord, on forme toutes sortes de métiers dans le domaine culturel, on forme les bibliothèques, les archives, les documentalistes, les médias, voilà, toutes sortes de gens, les élus de la culture, beaucoup aussi. Donc on forme beaucoup de gens, et puis de l'autre côté, on accompagne les territoires. On accompagne les territoires
aux cultures et usages numériques et à l'impact du numérique sur les territoires auprès des citoyens. Je vais vous donner comme ça, allez, deux, trois exemples. On accompagne, alors je suis nantais, donc forcément on accompagne Nantes Métropole, et on accompagne sur la question de la ville collaborative. D'ailleurs, on accompagne aussi des théâtres de Nantes. On accompagne la communauté de Strasbourg, pareil à la ville collaborative, ou la ville de Lissy-les-Moulineaux. Donc on a, ça ce sont des métropoles, mais on accompagne aussi la petite ville de Teix, près de Vannes, 9000 habitants. Ils ont un projet d'équipement culturel. Ils croisent une salle de spectacle, une médiathèque, une école de musique et un espace jeune. Objectif, imaginer un équipement du futur. Mais cet équipement du futur, on va l'imaginer pendant 3 ans, on a commencé déjà, avec les citoyens, avec les gens, dans des ateliers créatifs, innovants. Hein, on appelle ça le design social, et je vais vous en parler. Hein. L'objectif, c'est que le citoyen soit co-décideur de la politique publique, co-inventeur, co-créateur. Voilà. On n'est pas les seuls, on est quelques agences en France à amener cette dimension qui est politique. Voilà, j'en ai fini avec ma mégalomanie personnelle. Abordons ce sujet. Ce sujet n'a jamais été abordé, c'est la première fois qu'on l'aborde, théâtre et ville collaborative. Il n'a jamais été abordé, et pourtant c'est un sujet qui remonte à l'Antiquité. Alors, je passe ce petit texte, le texte de présentation. Ah oui, je précise, ce support vous sera diffusé. Il vous sera diffusé sur le site SlideShare, mais aussi avec TNN Lab, et aussi avec l'agence, on va le diffuser partout, en gros. Il sera sous licence Creative Commons. Tout le monde sait ce que c'est une licence Creative Commons. Bien, très bien. Donc vous pourrez à votre tour le diffuser, etc. Autre dimension de cette intervention, je ne parlerai pas de technologie. En tout cas, je ne parlerai pas de stratégie de communication, et de marketing, parce que ça je le fais avec l'Odéon ou avec le TMS à Strasbourg, on fait des formations et on accompagne de ces théâtres aux stratégies de communication, mais on ne parlera pas de stratégie de communication. C'est bête hein, pour tous les relations publiques, c'est idiot. Hein. On parlera beaucoup plus de médiation. Ce sera plutôt le mot transversal, la notion de médiation, plutôt que celle de communication. D'ailleurs, la notion de communication, je pense qu'à terme, elle va un peu disparaître dans l'histoire. Donc des mutations professionnelles très importantes à venir pour les métiers de la communication. Alors, théâtre et ville, un questionnement structurel dans l'histoire du théâtre. J'ai essayé de remonter un peu loin quand même, pour positionner les choses. Donc quelques petits rappels historiques. Je sais, c'est lourd. Hein. Alors, le lieu théâtral comme espace politique sur un territoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le théâtre, depuis la Grèce antique, a toujours été un lieu politique, un lieu, une agora, on l'a rappelé tout à l'heure, une agora, et ça depuis l'origine. Depuis l'origine, ville et théâtre sont totalement hybridés et imbriqués. Pourquoi ? Parce que dans la Grèce antique, le seul média, entre guillemets, existant, c'était le théâtre. Et donc forcément, c'était là que Socrate venait faire un discours, hein, les aèdes grecs, les poètes, les poètes grecs, futurs philosophes, qui n'avaient pas encore écrit, qui étaient juste à l'oral, hein, parce que la philosophie est orale. Michel Serres, qui est mon papa dans mes études, puisque j'ai fait un doctorat avec lui, il nous disait ça. Hein. Et puis en dessous, la ville comme mise en scène de scénographie urbaine et d'espace de vie. En gros, le théâtre et la ville sont imbriqués parce que la ville est aussi une mise en scène. Et les architectes, d'ailleurs, de la Grèce antique, et puis ceux plus tard dans la Renaissance, vont véritablement voir la ville comme une scène et comme une scénographie. Donc il y a un lien essentiel, intrinsèque, profond entre théâtre et ville. Alors, je vous ai mis des mots. Vous voyez, des mots bizarres. Skéné, je ne vais pas vous faire un cours Paris-Croix-Sorbonne sur l'histoire du théâtre, c'est simplement qu'il y a deux typologies, deux thésaurus de mots. Skéné, topos, proskénium. Ça, c'est la notion d'espace, d'architecture, l'idée d'espace, hein, ou de topos, de lieu. Et puis, de l'autre côté, il y a une autre dimension du théâtre grec, qui est théatron, agora, chora. Alors, l'agora, qui est une aporie philosophique dans le Timée de Platon. C'est un mot extrêmement complexe à analyser, et d'ailleurs, des dizaines de philosophes, jusqu'à Derrida et Deleuze, se sont très bien chignons autour du mot cora. La cora, vous voyez, la chorale, en fait, c'est le lieu de vie, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu de l'humain, et puis pour Platon, c'est le lieu de l'être, en termes métaphysiques. C'est-à-dire, c'est le lieu où l'humain se rencontre, échange, interconnecte, échange la parole, les idées. C'est ça l'agora. L'agora, évidemment, elle est publique. Donc c'est la dimension publique. Ce que je veux que vous reteniez, c'est la fracture entre la notion d'espace, l'architecture, le topos, le lieu, et puis la notion de lieu. La notion de lieu, c'est autre chose. Le lieu, c'est le lieu de vie, c'est le lien social, c'est la proximité. Dès l'origine du théâtre, ces deux dimensions existent. Et le théâtre grec suinte sur la ville. Il est partout présent, il suinte autour de la ville. Voilà pour cette première précision. Alors, vous lirez, je ne vais pas tout... mais le lieu, la chose à retenir là, c'est le lieu théâtral a toujours été fédérateur d'une communauté dans l'espace de la ville, jusqu'au XVIe siècle. Ça a été toujours le lieu de la communauté, réunir des communautés, réunir des castes. L'apparition du rideau à la Renaissance, l'apparition du rideau, un classique dans l'histoire du théâtre, va séparer l'espace de la fiction, l'espace du jeu, de l'espace public. Va créer une séparation. Donc ça, c'est un tournant historique dans l'histoire du théâtre. Et puis, à la Renaissance, eh bien, on est en plein changement de civilisation, hein, c'est le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Ben, je ne vais pas vous faire, pour ceux qui ont suivi une formation avec moi, je fais l'histoire des changements de civilisation, parce que nous sommes dans un changement de civilisation en ce moment. On va en reparler tout à l'heure. À la Renaissance, invention de la perspective. Et la perspective, c'est une autre idée de l'espace qui va modifier complètement l'idée de territoire. C'est 3D, si vous voulez. Donc, c'est une autre idée du territoire, de la ville, de l'habitat, et bien entendu, de la scène théâtrale. Alors, je ne peux pas ne pas citer Sergio, immense architecte de la Renaissance, un des plus grands architectes de la Renaissance, Palladio, Sergio, qui vont remodeler l'Italie et remodeler l'histoire de l'architecture, qui vont créer une rupture dans l'histoire de l'architecture. Sergio a un traité d'architecture, et curieusement, et c'est à noter, il intègre dans son traité d'architecture global, parce que ce n'est pas un scénographe là-bas, c'est un architecte global, il intègre dans son traité d'architecture un traité de la scène et du théâtre. Preuve encore que théâtre et ville sont totalement hybridés. Et puis, les deux fameuses scènes classiques en histoire du théâtre, on apprend ça, hein, la scène tragique et la scène comique du XVIe siècle de Sergio, qui a servi de référence dans toute l'histoire du théâtre, comme par hasard, quelle est la représentation de ces scènes? La ville. Toujours la ville. Voilà pour l'origine. Hein. Alors, je ne vais pas continuer trop loin, mais petit à petit dans l'histoire du théâtre, le théâtre s'est extrait du milieu théâtral pour aller se diluer dans la ville. Hein. On fait du théâtre dans la ville. Alors, vous avez, c'est le théâtre urbain, c'est les interventions urbaines, c'est les performances des années 60, c'est l'art conceptuel, c'est le pop art, voilà. C'est toute l'histoire de l'art contemporain qui va investir la ville et faire de la ville une scène. Alors, c'est carrément une histoire, hein, c'est une thèse et un livre hein, sur le théâtre hors scène, hors cadre du lieu théâtral. Je donne juste deux exemples. Le premier, c'est cette immense metteur en scène allemand des années 20, Max Reinhardt, hein, le théâtre réaliste allemand. Pour la première fois, cette photo est très rare, je vous le dis tout de suite, parce qu'elle est très rare, vous le trouverez. Elle est dans un seul livre, et bon, je suis détenteur, mais il date de 1927. Cette photo est très rare, parce que c'est à Berlin, et pour la première fois dans l'histoire, bien avant l'art contemporain d'ailleurs, Max Reinhardt va faire une mise en scène dans la ville. Et on voit cette photo, qui est assez rare, où il s'extrait de la scène, il sort du théâtre pour faire une mise en scène dans l'espace urbain. Donc ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, parce que j'aime bien, il y en a plein, hein. J'aurais pu vous citer André Engel, qui fait un spectacle avec un RER, voilà, non, il y en a plein. Le deuxième exemple, c'est un exemple de chorégraphe, c'est Trisha Brown, chorégraphe d'avant-garde des années 60, hein. Très importante dans l'histoire de la chorégraphie et de la danse. Trisha Brown, dès les années 60, Alors, je n'ai pas trouvé une photo. Son premier spectacle hors scène, c'est sur l'Hudson à New York. Sur un ring de catch ou de boxe, elle fait flotter un ring et des danseurs dansent en 1966. Ils dansent, je ne raconte pas les New Yorkais. Hein. Et la scène bouge et les danseurs bougent. Voilà. Donc ça, c'est une des premières tentatives de Trisha Brown, qui est une spécialiste. Et puis après, vous voyez, la scène, c'est le mur, et puis la scène, c'est le toit. Donc on s'extrait. Le théâtre investit la ville comme scène. Alors, se posent des questions essentielles auxquelles je vais essayer de commencer à répondre. Hein. Je ne vais pas y répondre aujourd'hui, loin de là. Je vais avoir besoin de vous, d'ailleurs, tout à l'heure, quand on commence à y répondre, et puis cet après-midi aussi. Quel rapport le théâtre construit aujourd'hui avec la ville, l'émergence des métropoles et de la Smart City? Quelle est la place du lieu théâtral dans son territoire de proximité? On l'a rappelé tout à l'heure. La place, le quartier, la ville. Et puis au-delà des dispositifs stratégiques de communication, quelle forme de médiation avec les publics de proximité? Qu'est-ce qu'il faut imaginer avec les publics là, autour du théâtre de Colombes, hein, avec les gens qui sont autour, qui vivent autour? En gros, pourquoi je me suis lancé sur ce sujet? C'est important de ça. C'est parce que, comme je fais des formations à la stratégie de communication, des relations publiques, de la billetterie, voilà, je me suis dit qu'on faisait de la médiation, on fait de la médiation numérique en ligne, hein, mais on oublie. Et je pense que depuis quelques années, on oublie trop le territoire de proximité, le quartier, à l'heure justement où on est en crise, où on est en mutation, où justement les banlieues sont à repenser, à réimaginer. Je pense que la place politique, au sens noble du terme, à droite ou gauche, la police, la cité grecque, la place politique du lieu théâtral est fondamentale dans les quartiers. Et en plus, si on regarde bien les cartes de Paris et de la banlieue, on a tout un réseau interconnecté de théâtre qui ferait bien de travailler ensemble pour imaginer une autre médiation sur les territoires. Ce serait peut-être une initiative à prendre entre tous les directeurs de théâtre, repenser le lien avec le territoire et avec la proximité et avec les gens, tout simplement. Alors la Smart City, c'est quoi? Oui, c'est quoi une Smart City? Vous avez le droit d'intervenir, hein, je ne suis pas du tout... Non mais moi je suis en dernière interaction. Oui, je précise, hein, moi, je me dis, vous pouvez m'interrompre, vous pouvez poser n'importe quelle question, et bien sûr, vous êtes d'accord avec moi, j'adore ça. C'est quoi une Smart City? Vous avez entendu parler de ce terme déjà? Jamais? Jamais. Alors, comme nous le rappelait, c'est très à la mode, c'est devenu pratiquement une marque. Hein, la Smart City, la ville dite intelligente. Je dis bien dite intelligente. Alors je vous ai mis des vieux, c'est des bouquins que j'ai chez moi, des gens qui imaginaient la ville du futur en 1950, en 55, en 79. Vous voyez, c'est pas tout à fait ça finalement en 2015. Si ce n'est que ici, j'ai un bracelet connecté. Et là, il ne s'est pas trompé. Un bracelet, une montre connectée. Alors, déjà un contexte technologique, parce que c'est quand même notre métier à Aurélien et moi, ma collègue. Il y a un contexte technologique très important. D'abord, le big data. Qu'est-ce que c'est le big data?
C'est toutes les données qui sont collectées par l'ordinateur,
C'est tout ce que produisent. C'est la production d'informations en temps réel, le big data. Les données massives. Je vais vous annoncer quelque chose que moi-même, j'ai eu du mal à croire. Il a fallu qu'on me le répète, qu'on me le prouve. Hein, je ne croyais pas. Depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis les 2 dernières années, on a produit plus d'informations sur la planète que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Ça parle. Hein. Depuis 2 ans, on a produit plus d'informations sur la planète.
On a diffusé, on n'a pas produit.
Produit.
Non.
Production. Mais si. Ah, je vous envoie le texte. Production d'informations.
Mais production, ça veut dire mettre en forme l'information.
Non, production de données. De données, data. Production de données.
Production de données, ça veut dire qu'il y a un média qui les produit.
Non, vous êtes trop dans le média. Vous n'êtes pas dans les technologies, les serveurs, et les algorithmes qui produisent de la donnée, les données financières, les données d'une ville.
Financières, ouais.
Mais je parle de données, moi, je parle d'informations. Oubliez les médias, là. Oubliez les médias.
Non, moi je parle de la production d'informations, je parle de la production intellectuelle.
Ah non, mais je parle pas.
Non, c'est pas ça.
Non, mais mini-cours, sciences de l'information, j'enseigne les sciences de l'information à Fac de Poitiers, donc micro-cours. Il y a 3 niveaux. Les data, les données, la donnée brute, C'est, par exemple, dans la colonne, combien il y a eu de naissances aujourd'hui.
C'est une donnée.
D'accord.
C'est une donnée. Deuxième strate, l'information. L'information, c'est la mise en scène des données. C'est la mise en scène. On regroupe l'information, on regroupe tous les taux de natalité, là, toutes les banlieues, hein, on regroupe l'information. Et puis, troisième touche, la connaissance. La connaissance, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information et qu'est-ce qu'elle produit pour penser l'avenir, pour imaginer une stratégie.
Et ça, c'est pas...
Donc, je parle de production de données. On a produit plus de données en 2 ans que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Le big data, les données massives. La réalité augmentée. Qu'est-ce que c'est la réalité augmentée?
C'est une superposition d'informations sur la réalité.
Sur le réel. C'est-à-dire que dans à peu près 3-4 ans, vous porterez des e-lens, c'est-à-dire les lentilles d'Apple. Vous n'avez pas remarqué, mais Apple n'a pas sorti de lunettes Google. Non, ils ont prévu le coup à l'avance. Ils vont sortir des lentilles de connexion. Et tout le monde va sortir des lentilles de connexion. Vous pouvez déjà jeter tous vos iPads, tout ça, c'est déjà mort. Des lentilles de connexion qui se connecteront en temps réel à des serveurs et des systèmes d'information en nuage. Ce qui fait que quand vous vous retrouverez devant Notre-Dame de Paris ou devant la Fondation Vuitton, vous regarderez la Fondation Vuitton, votre montre connectée, Apple a déjà pris du coup, ils ont déjà sorti la montre. La montre, c'est le tableau de bord des lentilles à venir. Et là, vous regarderez, là, vous aurez l'article Wikipédia qui apparaîtra sur l'histoire de la Fondation Vuitton, vous aurez des images, bien sûr, vous aurez des inputs, des théâtres qui vous diront, le théâtre d'à côté qui dira un spectacle à aller voir, pas loin. Bien sûr, quelques pubs, bien entendu, etc. Mais vous pourrez personnaliser l'architecture de l'information qui arrivera directement sur l'interface de vos yeux. En gros, les écrans du futur, ce sont vos yeux. C'est ça, la réalité augmentée. Et donc, on ne peut plus séparer le réel du virtuel. Je crois qu'il n'y a rien de plus qui m'énerve quand quelqu'un me dit « mais ça, c'est virtuel ». Virtuel et réel, aujourd'hui, sont totalement hybridés. Et je ne vous raconte pas l'arrivée des technologies immersives, comme le casque Oculus Rift, qui va modifier le théâtre aussi, la scénographie, et qui va modifier notre perception du réel. Réel et virtuel, aujourd'hui, s'hybrident dans une synthèse. Les technologies nomades, je ne sais pas si vous remarquez, mais les technologies se rapprochent du corps. Non ? Vous avez remarqué qu'elles diminuent en taille et elles se rapprochent du corps. Quelle sera la prochaine étape ?
Non.
Oui. C'est-à-dire la notion de cyborg, cybernétique, organique, artifice, biologique. Vous n'y couperez pas et vous en faites les enfants ? Ouais. Ben, ce seront des futurs cyborgs. Que vous le vouliez d'ailleurs ou non. Ils vont hybrider les technologies. En gros, si j'ouvre la boîte crânienne de Julie, allez, mal lecteur, et que je détruis ses synapses, très bientôt, avec les biotechnologies, les nanotechnologies, je pourrais remplacer son synapse, qui est à l'échelle moléculaire, par un nanotube de carbone en nanotechnologie. Et bien, à l'échelle moléculaire, le neurone et le synapse vont s'hybrider. Un pacemaker, c'est un objet artificiel qui côtoie le corps. D'ailleurs, parfois, il y a rejet. À l'échelle moléculaire, des nanotechnologies, si je remplace les synapses de Julie par des nanotubes de carbone, on ne saura plus différencier ce qui est artificiel de biologique. C'est ça, le cyborg. Donc, vos futurs spectateurs sont des cyborgs connectés qui reçoivent des flux d'informations en temps réel. L'informatique ubiquitaire de l'Internet des objets. Alors ça, c'est sûrement ce qui est le plus connu, puisqu'on voit maintenant l'arrivée des objets connectés, qui va aussi débouler dans les théâtres, c'est une certitude. Hein. Les objets connectés, la brosse à dents connectée. Non ? Non, alors je brosse mes dents. La brosse à dents connectée. Je brosse mes dents et ma brosse à dents est connectée en Wi-Fi, bien sûr, chez moi. Et elle envoie des données au dentiste. Le dentiste sait combien de fois je me brosse les dents par jour, combien de temps, et même dans les brosses à dents évoluées, comment je me brosse les dents. Problématique, c'est que les mêmes données, c'est pour ça qu'il y a production massive de données en permanence, tous les gens vont vendre bien des données. Et donc, problème quand même, c'est que la brosse à dents peut aussi se connecter sans le savoir de votre assureur, qui voit que vous ne vous lavez pas assez les dents. Et du coup, votre police d'assurance monte. C'est là où ça commence à poser problème. Toutes ces configurations, la data visualisation aussi, ça va, la data visualisation, je prends des données, j'en fais de l'information, je les mets en scène de manière visuelle. On est en train de passer d'un monde textuel à un monde visuel, très important pour les relations, pour la communication. De penser, de, savoir penser cette idée de la data visualisation, y compris quand on présente un programme de théâtre. C'est intéressant. Alors, tous ces contextes sont les contextes de la ville numérique et sont les contextes de la smart city. Qu'est-ce qu'un spectateur dans un quartier ? C'est un homme connecté en temps réel qui reçoit des flux d'informations et qui en produit en permanence. Réception, production de flux d'informations en permanence. Mais voilà l'homme connecté, oui, de l'homme connecté au cyborg. Alors, il a des capteurs, il a... Vous-même, vous êtes déjà affublé de plein de choses. L'étape suivante, c'est que ce sera intégré en plus RFID. Je ne vais pas être loin, je vais pas... Alors, le principe de la Smart City repose principalement autour des flux et écosystèmes de données, qui produisent de l'information. Capter, produire, traiter, redistribuer l'information urbaine. À quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est une Smart City ? On pose par-dessus la ville une chape cybernétique qui va gérer les transports, gérer l'eau, l'électricité, la lumière, les entrées et les sorties des lieux publics. Les capteurs dans tous les sens. Cette ville va capter vos informations, va la diffuser, va améliorer aussi votre vie quotidienne. Attention, la Smart City n'est pas... Voilà, je ne vais pas en faire le diable non plus. Mais cette chape technologique est en train d'être vendue dans toutes les grandes métropoles du monde. Alors évidemment, là les multinationales arrivent, GDF Suez, Orange, vous voyez, qui ont chacun leur modèle de SPI, le groupe SPI, chacun a son modèle de Smart City et vend la Smart City à la métropole. Des sommes évidemment très importantes, et puis non seulement ils vendent la ville cybernétique, mais en plus ils vendent la gestion, c'est-à-dire à l'année. D'accord ? Moi j'ai l'habitude d'opposer à ces prestations, en tout cas à ces propositions de Smart City, je leur pose souvent la question, est-ce qu'une Smart City ça bug ? Est-ce qu'une Smart City ça bug ? Imaginez un réseau de feux rouges qui est géré par des algorithmes, car la Smart City est entièrement gérée et automatisée par des algorithmes. Imaginez qu'un hacker ou un pirate informatique va hacker le réseau des feux rouges. C'est-à-dire que tous les feux rouges s'inversent, par exemple, ou tous deviennent verts. Bon, ben dans une ville comme Nantes, c'est 150 morts en quelques minutes. Est-ce que Smart City, ça bug ? Je n'ai pas eu de réponse à cette question. C'est d'ailleurs le risque, la gestion du risque.
Ça favorise aussi toute la surveillance, quand on a un petit peu...
Tout à fait. Les capteurs, la surveillance, bien sûr, les caméras de contrôle dans tous les sens, bien sûr, c'est une société de contrôle, c'est Gilles Deleuze, on est passé d'une société de coercition, on enfermait les gens, maintenant on les enferme plus, les fous, les femmes hystériques, ça c'est le 19e siècle, on enfermait les gens. C'est le propos de Michel Foucault aussi. Une société de coercition, tout ce qui n'était pas dans la norme sociale était enfermé. Donc Charcot pense que les femmes sont hystériques, on les enferme. Et puis les fous, on les enferme aussi. Michel Foucault a souvent parlé de l'histoire de la folie. Michel Foucault, c'est ça, on enferme. Aujourd'hui, et ça c'est Gilles Deleuze nous dit qu'on va passer, enfin il avait prévu 30 ans avant tout le monde, d'une société de coercition à une société de contrôle. C'est-à-dire vous êtes libre. Vous êtes libre, mais vous êtes contrôlé en temps réel par des flux d'informations qui vous captent 24 heures sur 24. Donc c'est une autre forme de coercition. Voilà, ça c'est pour la présentation de la Smart City. Alors je vous ai mis comme ça quelques technologies juste pour rigoler. Ça ce sont des capteurs, des beacons, des capteurs, qui peuvent vous envoyer des informations à travers le Bluetooth sur votre téléphone portable. Vous avez beaucoup de musées en ce moment, Oriane est une spécialiste du design de visite, elle fait de la veille technologique sur ce sujet. Vous pouvez rentrer avec votre téléphone portable dans un musée et vous allez recevoir des informations sur l'expo, mais personnalisées, parce que vous aurez configuré, et vous allez vous retrouver par exemple avec votre téléphone portable devant une peinture de Velázquez, et vous allez recevoir des flux d'informations autour de ce tableau, l'histoire du tableau, une petite interview d'un critique d'art, etc. C'est ça, les capteurs vont amener aussi une dimension d'information. On peut imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des capteurs et du Bluetooth dans un théâtre. Question ouverte. À cette ville intelligente, Smart City, on traduit d'ailleurs souvent par ville intelligente, alors que smart ne veut pas dire intelligent, ça veut dire rusé. L'intelligence, c'est clever. Mais à cette ville dite intelligente, moi, et je ne suis pas le seul, on est pas mal de gens sur la planète à revendiquer cette autre idée, je revendique l'intelligence de la ville. L'intelligence de la ville, c'est vous. C'est le théâtre, c'est la médiathèque, c'est le centre d'art, c'est le centre d'action sociale, c'est la maison de quartier. L'intelligence de la ville, c'est l'humain. Et comment les technologies numériques, utilisées par les humains, peuvent être créateurs d'innovation sociale, de proximité, de lien social et de solidarité. Ça, c'est une autre ville intelligente, et on l'appelle la ville collaborative. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai très peu de temps, pourtant j'aurais des milliers de choses à vous dire. Nous sommes en train de changer de civilisation. C'est un grand mot, hein, le changement de civilisation. Un changement de civilisation, en moyenne, Fernand Rodel, historien, très grand historien des civilisations, nous disait qu'il faut 70 ans pour changer de civilisation. Une révolution, c'est extrêmement rapide, extrêmement violent. Mai 68, 1789, 1793, la révolution égyptienne, ça modifie quelques couleurs de notre société, mais ça ne représente pas un changement de civilisation. Un changement de civilisation, ça met 70 ans, et l'ancienne côtoie la nouvelle. L'ancienne côtoie la nouvelle, et ça frotte. On est à peu près aujourd'hui au milieu du guet. Il faudra attendre encore une petite trentaine d'années avant que cette nouvelle civilisation s'enclenche sur l'ancienne. Ici, vous avez un schéma qui date de 1965. Ce schéma a été dessiné par un des grands pionniers de l'Internet, Paul Baran, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Les gens qui ont inventé Internet, qui ont imaginé Internet, l'ont fait dans le cadre d'un laboratoire secret qui s'appelle ARPA, l'ARPANET. Et dans ce laboratoire secret, pendant 5 ans, entre 1965 et 69, ils ont imaginé, construit, inventé ce futur réseau de communication. La première question que l'armée américaine, qui finançait, je précise, hein, l'armée américaine n'a pas inventé Internet, je vais arracher les pages, c'est encore écrit dans des livres, c'est faux, ce sont les universitaires, financés par l'armée. L'armée américaine qui finançait ce projet a posé une question essentielle, qui est la chose la plus importante à comprendre concernant le numérique, le paradigme numérique. La question essentielle est la suivante, quelle forme aura ce réseau ? Quelle sera son architecture ? Alors, dans un premier temps, ils ont proposé un réseau centralisé, avec un centre. Alors l'Américaine a refusé cette idée du réseau parce que trop fragile. À l'époque, c'est la guerre froide, un missile soviétique sur Chicago, c'était prévu à Chicago, un missile soviétique sur Chicago et toutes les branches de l'art tombent. Trop fragile, centralisé. Mais si je refuse l'idée d'un réseau centralisé, alors je refuse l'idée de la hiérarchie. Je refuse l'idée du contrôle, car le centre, c'est le contrôle. C'est la règle, c'est la hiérarchie. Vision hiérarchique. Ça se traduit sur nos territoires. Par exemple, dans une ville, les places, toutes les places représentent des idées de centralité, de contrôle. Hein? Comme par hasard, ben, la place des Victoires, la place de Louis XIV, hein? La place Napoléon, toutes les places représentent l'idée d'une vision hiérarchique, centralisée, divine, hein, évidemment, de la société. Donc ça se traduit, l'idée d'un réseau se traduit sur les territoires physiques. Deuxième type de réseau, alors comme nos pionniers, on leur a refusé cette idée de réseau, hein, inventer le réseau Internet, ben ils ont proposé quelques mois plus tard un deuxième type de réseau. Non pas un réseau centralisé, mais un réseau décentralisé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres. Alors ils ont proposé quatre centres à l'époque. Ils ont proposé quatre centres. L'armée américaine est tellement paranoïaque, c'est la guerre froide, on est tellement dans des logiques paranoïdes, que même cette idée d'avoir quatre centres, il suffisait que les soviétiques impactent les quatre centres par des missiles, et le réseau explosait. Ça donne, cette notion de réseau décentralisé, une autre idée du territoire. L'idée de la décentralisation. Les années 80, Mitterrand, qui se décentralise, et c'est la naissance des intercommunalités. Sur les territoires, c'est la naissance des ronds-points. C'est les milliers de ronds-points. Ouais. Hein, la DDE était payée la prime pour faire des ronds-points. Hein. Qu'est-ce que c'est là, ronds-points ? Eh bien, les ronds-points, c'est une autre distribution du territoire. Des zones décentralisées. L'armée refuse cette idée-là. Ce que vont créer alors les pionniers de l'Internet, personne ne l'avait jamais imaginé en termes culturels dans l'histoire de l'humanité. Ils vont imaginer un réseau qui n'a pas de centre. Et s'il n'y a pas de centre, ben, il n'y a pas de chef. S'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de hiérarchie, puisque personne ne peut le contrôler. Ce réseau, on lui donne un nom, on l'appelle un réseau distribué. Le changement de civilisation en ce moment qui est en train de se passer, c'est le passage d'une vision centralisée et hiérarchique du monde à une vision non hiérarchique qui impose un nouveau modèle. Ce nouveau modèle, c'est le modèle collaboratif. Puisque tout le monde peut se connecter à tout le monde, peer-to-peer, personne n'a jamais fait joujou avec un logiciel peer-to-peer. Si ? Il n'y a pas de centre dans un logiciel peer-to-peer. Personne ne contrôle, les gens s'interconnectent et se distribuent l'information les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que le réseau a cette forme-là. Peer-to-peer. Voici un territoire peer-to-peer. Réseau territoire distribué. La notion de distribution. À cause de ce schéma et de ce choix d'un réseau distribué, le modèle de gouvernance du monde est en train de changer. Nous sommes en train de passer d'un modèle hiérarchique, contrôlé, centralisé, à un modèle collaboratif. Je vous donne deux exemples très concrets. La salle de vente aux enchères. Imaginez, je suis à la salle de vente aux enchères de Colombes. Nous sommes en 1990. Je suis avec Julie, qui est là. Et Julie a besoin d'une chaise verte pomme thermoformée par le designer italien Joe Colombo. Elle adore ça. Et il y a une vente de chaises vertes pomme thermoformée. Alors on y va. On y va. Et vous voyez, ça devant le français. Et on arrive, et là, qu'est-ce qu'il y a en entrant ? Le commissaire priseur. Le commissaire priseur. Attention, officier de justice. C'est lui qui décide qui va ou ne pas acheter cette chaise. Pourquoi ? Parce qu'il a son mail de justice, et c'est en faisant tomber le mail de justice qu'il va valider la vente. Alors la vente commence, alors là, 30 francs, 50 francs, 100 francs, hein, 90. Vous savez la vieille ? Bon. 60 francs, enfin, Julie, ça l'énerve, on a fait 100 francs, 250 francs, et puis là, il y a un jeune homme au fond, qui s'appelle Gislain, il est un peu, ça l'embête un peu, il se gratte la tête. Adjugé. On a tous vu ça dans les films américains, hein, le j'ai 4 millions de dollars, je me gratte la tête. Ah, oh, retrouvé. Ça va ? 2015. Julie a besoin d'une chaise verte tellement formée de Joe Colombo de 1966. Que fait-elle ? Elle ouvre auboncoin.fr. Elle tape chaise verte. Elle se géolocalise et sur un territoire donné. Elle peut choisir sa chaise verte à Colombes ou à Bayeux, où elle veut. Et elle voit des chaises qui arrivent et elle achète sa chaise. Alors moi je vous pose une question, qui a déposé les chaises ? Qui a mis les chaises dans mon coin ? Qui les achète ? Où est le commissaire priseur ? Au bon coin représente le modèle de l'économie collaborative. Qui est en train de tuer ? La moitié des salles de vente aux enchères en France sont fermées. Pourquoi ? Parce que le modèle collaboratif, d'économie collaborative. Deuxième exemple concret, et après je passe à l'attaque. Je suis obligé de passer par là. Wikipédia ou Universalis ? Britannica. Britannica, Universalis, les descendants de la Diderot d'Alembert. Encyclopédie hiérarchique, avec comité scientifique. Et attention, ce n'est pas n'importe qui décide qui va écrire dans cette encyclopédie et qui sera payé pour. Comité scientifique, centralisation, hiérarchie, contrôle du savoir. Ça va ? Non, Wikipédia. Qui écrit dans Wikipédia ? Non seulement on écrit, mais en plus on corrige l'article de l'autre. Hein. C'est la parabole de Borges, l'écrivain latino-américain Borges, un génie. C'est le livre de sable. C'est la naissance du livre qui ne se termine jamais. Le livre infini, qui ne se termine jamais. Il aurait pas, s'il vivait aujourd'hui, Borges, il hallucinerait. Ce livre ne se termine jamais. La notion d'édition dans l'histoire du livre est morte. Première édition, deuxième édition, troisième édition, c'est fini ça. Elle est remplacée par une autre notion, la notion de mise à jour. N'importe quel livre aujourd'hui peut être mis à jour. Il y a un artiste allemand, il a essayé de calculer, il voulait imprimer Wikipédia. Il a fait le calcul. Avec un mathématicien, il fait 4 vues, 35 000 volumes. L'Universalis, 24 volumes avec ses annexes. Alors, je vous pose la question, qui a gagné ? Wikipédia ou Britannica Universalis ? Paradigme collaboratif qui se met en place. Ah, je loue une voiture ! Je vais chez Hertz ou Avis ? Non, je vais sur drivey.com. où je loue la voiture de mon voisin. Ça va, vous avez compris?
Pour Wikipédia, justement, il n'y a pas quelque chose qui a changé. Maintenant, il n'y a pas un algorithme qui définit qui publie et comment on valide les publications.
C'est pas qui valide, c'est qui gère les publications.
Mais du coup, il y a bien une sorte de hiérarchie.
Non. Non, c'est pas une hiérarchie. Parce que toi, tu peux, si tu suis bien la charte éditoriale, si tu la suis, hein, attention, si tu ne suis pas la charte éditoriale, évidemment, ton article saute. Donc tu peux créer un compte et créer un article.
Il n'y a pas un truc d'algorithme qui fait que plus on publie, plus on valide ce qu'on publie?
Non, plus on publie, plus on est référencé sur Google. C'est tout autre chose. L'algorithme, il est lié uniquement à la stratégie publique. Bien, ça va, vous avez compris? On est en train de passer dans un monde collaboratif, que vous l'oubliez ou pas?
C'est une dimension collaborative, mais surtout aussi dans le monde du travail. Cette dimension collaborative, elle surtout aussi dans le monde du travail, dans l'organisation.
C'est une révolution partout. Le paradigme collaboratif est en train de nous faire muter l'histoire du travail, l'histoire de la culture, toutes les histoires. C'est le paradigme du 21e siècle. Nous allons vivre dans un monde collaboratif. Et attention, on va préciser, mais je préciserai après. Collaboratif ne veut pas dire gentil.
Elle pose aussi.
Je vous donne un exemple, Facebook, qui remplit Facebook? Qui remplit Facebook? Qui devient ami? Julie, tu veux devenir mon ami? Et donc créer un lien. Hein? Facebook fonctionne sur le modèle collaboratif. Ça n'empêche qu'un groupuscule d'actionnaires qui a créé l'outil, lui ramasse les dividendes. Vous voyez, le modèle collaboratif n'a rien d'humaniste en soi. C'est ce que vous en ferez, vous, qui le rendra humaniste. C'est bien le sujet de cette analyse.
Mais justement, elle pose la question, juste rapidement, de l'émancipation citoyenne. Et si on parle des 70 ans de changement de civilisation, on peut dire aussi qu'on est un changement de gouvernance. Et l'émancipation citoyenne fait qu'aujourd'hui, on attaque le changement de gouvernance politique, au sens premier du terme, des territoires. Quoi.
C'est bien le sujet de l'intervention. Je ne raconte pas quand je raconte ça à des élus, quand je parle des élus. Vous imaginez, hein, je suis en train de leur annoncer que c'est fini. C'est fini, l'idée du... Attention, il y a des choses qui ne changeront jamais dans l'histoire de l'humanité, hein, depuis Cléopâtre. Hein. Sexe, argent, pouvoir. Enfin, n'est-ce pas? Sexe, argent, pouvoir. Ça ne changera jamais. Je ne suis pas en train de dire que le pouvoir de décision a disparu. Je ne suis pas en train de dire que l'idée du pouvoir a disparu. Par contre, je suis en train de vous dire que le fonctionnement du pouvoir est en train de changer radicalement. D'ailleurs, les gens qui dirigent la planète ne sont plus les mêmes qu'avant. Et plus on va aller dans le temps, plus vous allez voir que les vieilles figures hiérarchiques qui se tiennent encore aux branches vont tomber. Qui dirige le monde? Google? Facebook peut-être? Twitter peut-être? Amazon? C'est-à-dire les gens qui maîtrisent l'information. Autre dimension très importante, je vais aller très vite. Au 19e siècle, qui maîtrisait le charbon et le traitement du charbon était puissance mondiale. La France était seconde puissance mondiale derrière l'Angleterre. Une des régions les plus riches d'Europe, c'était le Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui une des plus pauvres. Au XXe siècle, qui maîtrisait le pétrole et le traitement du pétrole était puissance mondiale? Arabie Saoudite, États-Unis, fin de la Seconde Guerre du Golfe, fin de l'ère du pétrole. Nous allons voir le carbone et l'ère du pétrole petit à petit. Hein, les voitures électriques commencent à se vendre, l'hydrogène, le solaire. Petit à petit, l'idée du pétrole qui va s'évanouir. Hein, il faut 70 ans pour s'évanouir. 21e siècle, qui maîtrise l'information et le traitement de l'information est puissance mondiale. L'information, c'est le pétrole du 21e siècle. Et regardez, les sociétés qui gagnent le plus d'argent, qui sont en train de monter en puissance, qui s'intéressent au transhumanisme, au cyborg, c'est quoi? Google, Facebook, Twitter. Quel est le travail de ces sociétés? Quel est leur objectif, leur finalité? La maîtrise, le traitement, l'indexation, l'absorption, la manipulation de toute forme d'information sur la planète. Donc, j'allais dire, charbon des relations publiques. Moi je vais peut-être chercher des liens, hein, mais bon, hein, mon bon vieux cagneux, je vais faire des liens avec tout. Donc, pétrole et relations publiques. Bon, c'est pareil, hein, on peut chercher une diacritique. Information et relations publiques. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que vos métiers de la communication sont totalement liés au pétrole du 21e siècle. Tous les métiers liés à l'information sont en profonde mutation. Bibliothécaires, archivistes, documentalistes, audiovisuels, relations publiques, relations presse, tous les gens qui touchent à l'information. Vous êtes au cœur de l'économie mondiale. Donc, ça change un peu le point de vue. Alors, vous voyez, derrière un réseau distribué qui n'a pas de centre, il y a un réseau d'ordinateurs, mais il y a aussi un réseau de gens interconnectés, et puis finalement, dans les objets connectés, un réseau d'objets connectés, puisque tout, à terme, sera connecté à Internet, y compris vos oreilles, votre foie, votre frappe, vos vêtements, vos yeux, enfin bon. Voilà quelques mots, parce qu'évidemment, ça a construit et produit une novlangue très parisienne, des fois, il y a des choses très concrètes. Mais une nouvelle langue, une nouvelle langue. Design social, crowdfunding, financement participatif. Vous imaginez la tête des banques. Essayez d'imaginer la tête des banques. Je suis designer, j'ai un projet de verre. En 1990, il faut que je fasse mon prototype. Mon prototype va coûter 40 000 euros. Alors je vais voir la BNP ou la Société Générale qui me prête 40 000 euros en R&D pour faire mon... Non. C'est pas grave, financement participatif, je mets mon projet en ligne sur Ulule,